Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la conscience. Et avant d'aborder ce thème-là de façon plus approfondie, j'aimerais remettre un petit peu le cadre de l'exploration, comment j'entends pour moi, pourquoi en fait on se pose ces questions, quel est l'intérêt en fait d'explorer la nature de la conscience et de l'attention. Et il y a plein de manières en fait de s'expliquer pourquoi on s'assoit en silence, on ferme les yeux, pourquoi on a des pratiques spirituelles, on a tous des raisons et des intentions différentes, et surtout on a tous des cartographies différentes, des manières de symboliser notre chemin, chacun à sa façon. J'aime bien, je trouve assez clair la façon qu'on va trouver dans le bouddhisme, comment le Bouddha, dès son premier discours, a donné un cadre à la recherche spirituelle. Et il a expliqué, et c'est toujours d'actualité dans le bouddhisme, c'est toujours en fait les quatre, ce qu'on appelle les quatre nobles vérités ou les quatre vérités des nobles. C'est la première des nobles vérités, c'est l'existence de la souffrance. Et ça paraît un peu bateau, mais parce qu'on se dit on le sait, mais en fait c'est de voir. Pour lui, le chemin spirituel commence par voir que dans tout moment d'expérience est contenu un minimum de souffrance. Alors souffrance, le mot est très fort, mais d'insatisfaction peut-être. Même le plus beau des moments aura toujours une petite teinte de, par exemple, on a vu la permanence, ben, ce moment ne va pas durer. Et déjà, ça crée à l'intérieur quelque chose de, on ne peut pas vraiment asseoir notre bonheur et l'investir dans ce moment parce qu'il n'est pas durable. Et on sait qu'à un moment, il va partir et que ça va se transformer en autre chose. Donc ça déjà teinte le bonheur d'une petite insatisfaction, quel que soit le bonheur. On ne vit pas comme ça, on ne le voit pas comme ça, c'est pas quelque chose qu'on a tout le temps à l'esprit, et c'est quelque chose que le Bouddha recommande d'avoir à l'esprit. C'est de voir qu'en fait, il n'y a pas, dans aucune expérience, la plénitude de la satisfaction n'est contenue vraiment. Et puis après, la deuxième vérité des nobles, c'est les causes de la souffrance. C'est tout un corps de discours et d'enseignements sur quelles sont les raisons, en fait, pour lesquelles, notamment la permanence, comme je viens de le dire, ça viendra dans les causes de la souffrance. C'est une des causes pour lesquelles il y a de la satisfaction, c'est la réalité de la permanence. Et il y en a d'autres, on y reviendra après. Et puis après, il y a la troisième vérité des nobles, c'est la cessation de la souffrance. Et là, c'est tout un corps d'enseignement qui parle de la possibilité de se libérer, en fait, de ça. D'un chemin qui permet d'arriver à une complètement autre expérience de la vie et de nous-mêmes, dans lequel cette souffrance, cette résistance, cette réactivité, cette insatisfaction n'est plus contenue. Voilà, quelque chose de nous-mêmes dans lequel il n'y a pas cet élément d'insatisfaction. Et la dernière vérité des nobles, du coup, c'est les chemins qui mènent à la cessation de la souffrance. Et là, c'est tout le corps d'enseignement sur les techniques, les approches, les questionnements, la philosophie. Tout vient à ce moment-là dans cette quatrième partie. Dans l'intention du Bouddha, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est très important pour notre chemin spirituel, c'est il cherchait une solution à la souffrance humaine. Il cherchait s'il y avait moyen de s'en libérer. C'était ça dans la petite histoire, hein, dans la mythologie du Bouddha. C'était vraiment pour ça qu'il a quitté son royaume. Et ça reste toujours dans les intentions des pratiquants du bouddhisme que de ne pas pratiquer que pour eux-mêmes, mais que de pratiquer en fait la recherche de la libération de la souffrance. Ça peut être la libération de nos schémas destructeurs, de nos jugements intérieurs, la libération de nos névroses, hein. C'est pas juste à ce moment-là pour nous. C'est aussi avec la conscience que tous nos dysfonctionnements impactent sur notre entourage, impactent sur notre société, impactent sur l'écologie, le monde, la planète. Et donc, en fait, on ne travaille pas juste pour nous et notre bien-être, mais on travaille pour le bien-être de tous et la libération de la souffrance de tous, pas juste pour la nôtre. ça fait partie du tableau, du cadre conceptuel dans lequel on s'engage, de la vision de laquelle pourquoi on s'assoit en silence et qu'on amène notre attention sur la respiration. Pas juste pour avoir la paix de l'esprit. Il y a comme un projet à long terme, là aussi, quelque part. Dans le bouddhisme, un projet sur des dizaines de vies. Hein? Alors ça fonctionne pas très bien dans notre mythologie à nous, mais même sur une vie, ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne très bien, en fait, de se dire, voilà, c'est pas juste pour moi, c'est aussi, je m'engage pour des causes qui dépassent ma personne. Et du coup, sinon, ça peut être égocentrique aussi. Ça peut être très égocentrique. Donc ça donne de l'énergie, de l'élan et du cœur dans nos méditations. C'est quelque chose d'assez important et qu'il est bon de se rappeler. Les causes de la souffrance, dans différents discours, elles apparaissent à différents niveaux. Parfois, ça va être greed, hatred and delusion, donc l'avarice, la haine et l'illusion. Hein, ce seront les trois causes de base, en fait, qui créent de la résistance, de la réactivité, de l'égocentrisme. Voilà, mais à d'autres moments, dans les discours du Bouddha et d'autres grands maîtres qui ont émergé dans le bouddhisme par après, c'est l'ignorance. L'ignorance serait la racine, en fait, de la souffrance. La racine de la satisfaction. Donc là, c'est un endroit particulier, l'ignorance, parce qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ignore. On ne sait pas ce qu'on ignore. On peut savoir qu'on ignore quelque chose, mais on ne sait pas ce que c'est, en fait, qu'on ignore. Et c'est très difficile, du coup, de travailler avec ça. Par où on commence pour travailler à s'ouvrir à quelque chose dont on ignore tout, en fait. On ne sait même pas quelle forme ça a. On ne sait pas ce qu'on ignore, en fait. Donc là, ça nous laisse un petit peu sans direction, sans chemin. Et cette ignorance, en fait, elle a un aspect qui est que on a du mal à vivre en sachant qu'on ignore. Donc on vit comme si on connaissait. Tout, c'est ce qu'on fait. On vit comme si on connaissait. Mais comme visiblement, si on en croit, c'est pas que le Bouddha, dans l'hindouisme c'est pareil, et probablement j'ai pas exploré beaucoup les. Si dans le Coran, on retrouve pas mal aussi la nécessité de connaissance et le connais-toi toi-même. Mais comme on ne sait pas ce qu'on ignore, en fait, on imagine. On s'imagine une identité, on s'imagine des explications pour le monde dans lequel on vit. On a un cadre d'interprétation qui devient ce qu'on entend par réalité. Et ça, c'est ce cadre d'interprétation qui est aussi un cadre sociétal qu'on a appris quand on était petit, qu'on a déduit par nous-mêmes, qui a été transmis aussi par l'évolution humaine depuis le début de l'humanité. Et c'est ce cadre conceptuel qu'on appelle la réalité et auquel on se réfère pour nous expliquer à nous-mêmes chaque moment de notre existence. Comme ça qu'on voit notre vie. Et ça s'appelle dans le bouddhisme l'illusion. Donc l'ignorance, en fait, c'est une ignorance. C'est pas comme s'il y avait un grand trou blanc dans notre vie et qu'on sait un tout petit peu là à gauche et à droite, mais que là au milieu il y a un gros truc qu'on ne sait pas. C'est plutôt que on ne vit pas avec la conscience qu'on ignore quelque chose d'énorme. On a rempli les espaces par des explications qui, du coup, deviennent des illusions, des manières de voir qui créent une forme de réalité, une relation à ce qui est perçu. Et du coup, une perception aussi. Et dans ce fonctionnement, il y a tout un tas de manières de voir, de concepts, d'idées qu'on a à propos de qui on est, à propos de ce que le monde est. À propos de ce qu'est l'expérience, la nature de la réalité, qui sont dysfonctionnels et qui, du coup, nous mettent en porte-à-faux avec nous-mêmes et sont très éloignés de qui on est vraiment, nous mettent en porte-à-faux avec la réalité de la vie. Et du coup, il y a résistance, et il y a conflit, et il y a choc, et il y a souffrance tout le temps. Donc, c'est pour ça que les causes de la souffrance, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme sont l'ignorance. Enfin, peut-être pas partout dans l'hindouisme, mais là je pensais à cette tradition qui m'est chère, l'Advaita, dont je parle souvent, et un de ses enseignants qui m'inspire beaucoup, Nisargadatta Maharaj, que je cite pratiquement dans tous les discours, et qui disait, par rapport à l'ignorance, il disait, je ne sais plus si c'était dans ce séminaire-ci ou celui de l'année passée que je le disais, mais qu'il y a cette belle manière de dire que, en fait, l'ignorance de notre propre nature crée le manque, crée une sensation de manque. Parce qu'on ne sait pas qui on est, il y a une sensation de manque. Pas simplement parce qu'on ne sait pas, mais parce qu'on n'est pas en contact. C'est ce genre de savoir, ce n'est pas un savoir intellectuel dont on parle. C'est la capacité d'être consciemment en contact avec qui on est vraiment. C'est ça connaître. Connaître dans le moment notre propre nature, se ressentir juste plutôt que se ressentir à travers une image qu'on a créée ou une idée. Donc l'ignorance de notre propre nature, de qui on est vraiment, crée la sensation de manque. De la sensation de manque naît le désir. Du désir naissent une quantité de pensées dont certaines deviennent nos actes. Deviennent nos actes. Ça, c'est une phrase de Nisargadatta Maharaj. Donc là aussi, on voit qu'au centre de sa compréhension de la problématique humaine, puisque c'est ça qu'on explore finalement, c'est la problématique humaine et comment s'en libérer, il y a l'ignorance. L'ignorance. Ça implique que s'il y avait la connaissance de notre véritable nature, il y aurait tout un tas de dysfonctionnements qui ne seraient pas créés. Et de nouveau, Nisargadatta Maharaj dit à ce moment-là, on penserait, ressentirait et agirait en harmonie avec tout ce qui vit. Plutôt que d'être en disharmonie avec tout un tas d'événements du quotidien, on serait constamment en harmonie avec ce qui vit. Donc la connaissance en fait qu'on cherche, et pour moi la méditation en fait est une approche qui permet d'acquérir de la connaissance, à la fois une meilleure compréhension, mais aussi et surtout une meilleure aptitude de voir juste le moment. La connaissance là où on va chercher en fait, là où le chemin de recherche, c'est se trouve dans l'introspection, se trouve dans le contact avec nous-mêmes. C'est vers là qu'on va chercher. C'est vers le connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux de Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Ce qui implique que soit le monde et les dieux sont faits sur le même modèle que moi, soit le monde et les dieux sont en moi. Enfin, je ne vois pas d'autre option. C'est connais-toi toi-même, c'est-à-dire rentre en lien et en contact, questionne-toi à propos de toi-même et observe, et peu à peu tu découvres. On découvrira à force d'observer, pas à force de lire des livres, bien que les livres peuvent diriger nos questions et nos observations, mais au final, il faudra quand même qu'il y ait un véritable temps donné à l'observation de soi, indépendamment de toute idée qu'on peut avoir de qui on est, juste voir, juste regarder, et peu à peu on devient connaisseur. On fait contact avec ce qui est vu. Et quand on observe, quand on essaye de s'observer, en fait, par exemple tout à l'heure on était assis, il y avait un magnifique silence. Dans nos 15 premières minutes de méditation là qu'on vient de faire, il y avait un magnifique silence et puis il y avait ce qui était très présent, c'était les oiseaux. J'imagine pour tout le monde, il y a eu les oiseaux qui étaient là à un moment ou à un autre dans votre méditation. Il y a eu cette petite pluie et peut-être des souvenirs que ça relance. Pour moi, par exemple, les oiseaux et la petite pluie, ça a relancé des souvenirs de quand je faisais des retraites solitaires à la Mousson. Je me suis retrouvé projeté dans ces moments-là, et du coup toute l'atmosphère de ça était là, de ces moments. Mais après, ce qu'il y a aussi dans ce moment, et ça c'est là qu'on en vient à toucher vraiment, pour moi, ce qui est le grand mystère d'être vivant, ou le grand mystère de l'être humain, il y a aussi la conscience. Il n'y a pas que les oiseaux, dans ce moment-là, il n'y a pas que les oiseaux, il n'y a pas que les souvenirs que les oiseaux et la pluie induisent, n'y a pas que la respiration, il n'y a pas que les expériences, il y a la conscience. Il y a la conscience de l'expérience, elle est là, dans ce moment-là. Et ça, c'est... c'est comme toute autre chose, en fait. Cette conscience qui est là, dans ce moment-là, le moment où on entend les oiseaux, le moment où on entend la pluie, le moment où on ressent des émotions du passé, comme c'était le cas pour moi, il y avait la présence d'une conscience, d'une attention qui est là. Elle est là. Dans ce moment-là, l'attention est là, simplement. Et cette attention, ce n'est pas les oiseaux, ce n'est pas la respiration. Ce n'est pas les pensées, ce n'est pas les émotions. C'est rien de tout ça. C'est ce qui est le témoin de tout ça. Ou c'est dans ce moment-là que tout ça émerge. Les sons des oiseaux, les pensées, tout va et vient dans cette espèce de présence qu'on appelle la conscience. Et c'est le thème. En fait, c'est le thème, cette conscience pour moi. Et c'est ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui. Et ce n'est pas facile, en fait, de trouver les mots, mais c'est pour moi ce qu'il y a de plus intrigant. Quelle est la nature? D'où vient? Et quelle est la relation avec ma sensation d'exister, de cette conscience? Qu'est-ce que c'est cette conscience? L'autre jour, j'étais dans le train, j'ai eu la chance d'avoir un train. Il y en a quelques-uns qui ont été annulés ces derniers temps, et celui-là, j'étais dedans, donc j'étais bien content. Il était parti à l'heure, il est arrivé à l'heure. Et j'étais dans le train, et je regardais par la fenêtre, il y avait des beaux paysages, et c'est quelque chose que j'aime bien, en fait, regarder par la fenêtre d'un train. Et je pense que c'est quelque chose qui manque à notre société, de regarder par la fenêtre des trains. Et en fait, mon esprit était perdu dans une espèce de contemplation inconsciente ou on appelle ça des rêvasseries, c'est pas très beau comme mot, je sais pas s'il y en a un autre, une espèce de rêverie éveillée où il y avait le paysage qui défile, il y avait par exemple à un moment il y a eu un village et puis je me suis imaginé dans ce village, je me dis tiens qu'est-ce que c'est de vivre là et puis voilà et puis il y avait des choses à goût, mais j'étais pas du tout conscient en fait, c'était ça. J'étais perdu dans un daydream, dans quelque chose. Vous voyez bien l'état que j'essaie de décrire. Et puis à un moment, il y avait les nuages. Et les nuages, il y en avait qui avaient une belle forme. Et puis ils étaient très bas. Ils étaient vraiment si proches du sol. Et puis tous plats sur le dessous, à la même hauteur. Et vraiment comme posés sur quelque chose. Et ça m'intriguait. Du coup, je regardais les nuages. Et puis là, j'ai commencé à ne plus être dans cette espèce d'état de rêvasserie, mais d'être complètement attentif aux nuages. Et je regardais les nuages, et du coup, j'étais touché par cette beauté, et par cette... Il y avait quelque chose d'étonné aussi de cette masse. C'est super lourd, en fait, un nuage. De cette masse qui était là, posée dans le vide, et puis avec ses formes, et puis il y avait beaucoup de ciel bleu autour, c'était vraiment très, très beau. Et là, j'ai senti, en fait, que j'étais passé à autre chose. Mais je ne le savais pas encore parce que je n'étais pas conscient. J'étais juste dans les nuages. Enfin, pas dans les nuages, du coup, perdu. Perdu. C'était avant que j'étais dans les nuages, dans ma tête. Et là, ce n'était plus la même chose. J'étais plus dans une rêvasserie. J'étais vraiment en contact avec ce que mes yeux voient. Alors qu'avant, mes yeux voyaient, mais je n'étais pas en contact avec ce que mes yeux voyaient. Là, j'étais en contact. J'étais dedans. Je me sentais dedans. Ça impactait comment je me sens. Il y avait de la joie. Il y avait une poésie qui était là, qui n'était pas là juste avant. Et puis, à un moment, je me suis rendu compte de ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, je suis passé d'un état de rêvasserie à un état vraiment où je suis absorbé dans la contemplation des nuages. Et c'était pas du tout, c'était deux états très différents. Et le fait que je m'en rende compte, c'était un troisième état. Parce que du coup, j'étais aussi conscient de moi. Alors qu'avant, je n'étais pas conscient de moi. Il y avait ces rêvasseries qui étaient là. Et je ne le savais pas. Et puis il y avait mon esprit perdu dans la beauté des nuages et qui impactait mon univers intérieur très fort. Et avec toute cette poésie qui venait et tout ça. Et à un moment, je m'en suis rendu compte. Et ce moment où je me suis rendu compte, du coup, je faisais partie de l'image. J'étais conscient de ma propre présence. je savais que j'étais en train de regarder les nuages. Et je regardais encore les nuages, et je regardais. Du coup, je regardais encore avec une autre conscience et une autre acuité les nuages, les petits ruisseaux, qui, même le train, il va à 300 km/h, on les voit quand même. Et puis, la beauté des arbres, les montagnes au loin, un joli petit village, je me rappelle ça. Mais là, il y avait aussi la conscience de moi-même en train de vivre ce moment. Et ça, je trouve ça super intriguant en fait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ce moment où d'être perdu dans la rêvasserie ou perdu dans une contemplation, subitement, je sais que je suis en train de contempler quelque chose. C'est pas pareil. C'est pas le même état. On ne parle pas de la même chose là. Là, il y a, je suis devenu conscient, on va dire. Il y a conscient de ma propre présence dans ce moment. C'est mystérieux, c'est extrêmement mystérieux en fait. Souvent, je disais à Tala tout à l'heure, on a parlé souvent, moi, ce qui m'attriste, c'est de ne pas être plus conscient du mystère, de comment chaque moment est absolument mystérieux, ou chaque chose, ou chaque personne. C'est un monde mystérieux à chaque fois. Et j'ai l'impression, en fait, de marcher dans le quotidien sans cette conscience du mystère. Et du coup, comme si les choses étaient ce qu'elles sont, et puis voilà, et puis du matin jusqu'au soir, c'est comme si je connaissais les choses que je rencontre. Et sans voir du coup que ce n'est qu'une surface qui n'est même pas leur propre forme à ces choses, mais la forme que moi je leur donne. Mais de temps en temps, de s'ouvrir au mystère, de découvrir le mystère, et j'aime beaucoup cette notion qui est que découvrir le mystère, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de mystère. Tout comprendre, ce n'est pas du tout ça. Découvrir le mystère, pour moi, c'est comme découvrir un paysage. Le mystère, c'est le paysage. Donc, découvrir un paysage, c'est on ne le voyait pas et puis subitement, on voit ce paysage. Ben, découvrir un mystère, c'est on vit comme s'il n'y avait pas de mystère et puis subitement, on voit qu'il y a un mystère. C'est ça, découvrir le mystère. C'est pas comprendre le mystère ou réussir à s'expliquer le mystère. Je pense pas qu'il y ait même un intérêt, en fait, à faire ça. Mais découvrir le mystère, c'est vivre en sachant, en voyant dans chaque chose le mystère. Voir le mystère de chaque chose et vivre comme ça. Pour moi, voir le mystère de chaque chose, ce serait comme voir Dieu en toute chose. Pour ceux pour qui Dieu, le mot, ne choque pas, ou qui ont une affinité avec cette. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai envie, c'est vers là que j'ai envie de. C'est ça, en tout cas, que j'ai envie de partager. C'est cette. Curiosité, c'est comme moi, ça m'intrigue en fait, la capacité d'être conscient, humainement. Qu'est-ce que c'est cette capacité d'être conscient? Et comment ça s'observe la conscience? Et comment on sait qu'on est conscient? Et quelle est la relation avec nous-mêmes? C'est difficile dans ce genre de domaine d'avoir une précision avec les mots. Et pourtant, ce serait bien nécessaire. Et individuellement, de réussir à avoir un mot sur lequel on met un concept qui est précis et qui veut vraiment dire quelque chose pour nous, nous éclaire dans nos recherches. Mais là, par exemple, quand j'utilise le mot conscience, je n'ai aucune idée de comment c'est entendu et interprété par chacun d'entre vous. Et pour moi, je ne vois pas encore clairement la différence entre la conscience et l'attention. Revenez dans 5 ans, peut-être je vous le dirai, j'en serai peut-être plus loin. Mais pour le moment, ça se mélange encore un petit peu. Et je vais développer un petit peu ça. L'attention, de nouveau dans cette tradition de l'Advaita, l'attention est quelque chose qui, de nous, ne nous appartient pas et est tout le temps présent. Donc dans l'hindouisme, on dit qu'il y a les trois états. L'état de veille, comme maintenant, on est en état de veille. Il y a l'état de sommeil et il y a l'état de rêve. C'est les trois états de conscience qui alternent. Hein? Et C'est les Turia. Et puis après ça, il parle d'un quatrième état qui est Turiatitta. Et ça, le Turiatitta, c'est cette attention qui est constamment là. Ça, c'est le mapping, la cartographie hindoue. C'est qu'il y a une attention qui est constamment là. C'est-à-dire que dans l'état de sommeil, dans l'état de rêve et dans l'état de veille, il y a une présence non consciente souvent, mais qui est là et perçoit. C'est ce qui permet, par exemple, de cet exemple que je prends souvent, si on a quelque chose d'important à faire tôt le matin et qu'on n'a pas confiance dans notre réveil, et ben on risque de se réveiller la nuit en se disant, est-ce que c'est pas déjà l'heure? Hein? Est-ce que mon réveil n'aurait pas sonné? C'est parce qu'il y a quelque chose qui est là et qui est présent même quand on n'est pas conscient. Donc il y a quelque chose même quand on dort qui perçoit. On est juste absolument inconscient que cette perception-là est en train de se faire. Pareil dans le rêve, on n'est pas forcément conscient qu'on est en train de rêver, mais l'attention perçoit les mouvements du rêve. Donc cette attention, elle est dans cette tradition de l'hindouisme. J'insiste parce que ça existe dans le bouddhisme aussi, mais il y a aussi d'autres interprétations dans le bouddhisme, et ça n'a aucune importance. On va rester sur celle-là. Donc il y a cette attention qui est continue, qui est tout le temps présente, et puis de temps en temps, il y a des moments de conscience, c'est-à-dire des moments où on pourrait dire des moments où cette attention est consciente d'elle-même. J'y reviendrai à ça, parce que ça, voilà. Donc la conscience, pour le moment, je pourrais, une manière de la définir, ça serait l'attention qui est consciente d'elle-même. Si vous vous sentez perdu à certains moments et tout ça, c'est vraiment pas grave. Ça peut être dû au choix de mes mots, ça peut être dû encore au fait que je ne vois pas suffisamment clair dans ce que j'essaie d'exprimer, ça peut être dû au fait que vous avez encore besoin d'expérience dans vos pratiques et de recherche et de développer un vocabulaire pour pouvoir comprendre aussi. On a besoin des concepts pour comprendre. Et voilà, donc si vous vous sentez perdu à certains moments du discours, c'est pas du tout grave. C'est des graines pour le futur. Ça met en place d'autres pièces du puzzle. Et peu à peu, comme ça, le chemin se fait. Donc, cette attention, elle est vraiment centrale dans notre expérience. En fait, il n'y aurait pas d'expérience sans cette attention. Toute expérience est faite parce qu'il y a de l'attention. S'il n'y a pas d'attention, il n'y a pas d'expérience. Par exemple, on pourrait se dire, si une douleur n'est absolument pas perçue, est-ce que c'est une douleur? Si elle n'est perçue ni consciemment ni inconsciemment. Ah, parce que l'attention est différente de la conscience ici, si vous êtes avec moi. Parce qu'on peut avoir une douleur et on n'est pas conscient qu'on a une douleur, mais il y a quand même une douleur. Parce qu'elle est quand même perçue, même si on n'est pas conscient qu'elle est perçue. Ah, il y a des moments où on a une douleur, mais on n'est pas conscient qu'on a une douleur. Mais quand même, elle est perçue, cette douleur. Au moment où on se dit, ah ouais, cette douleur dans le dos, on sait qu'elle était déjà perçue avant. Elle ne vient pas d'émerger au moment où on en est conscient, elle était déjà là. On le sentait déjà, mais on ne savait pas qu'on le sentait. Donc ça veut dire, ça parle de cette attention qui est tout le temps là, même quand on n'est pas conscient. Mais si maintenant, il y a est-ce qu'une douleur qui n'est pas perçue existe? On peut prendre son temps, hein. On peut prendre quelques années avec celle-là. Hein. On peut prendre quelques années avec celle-là. C'est des bonnes questions, ça. C'est comme des koans. C'est des questions. Après, on peut cheminer avec ça. Il y en a quelques-unes comme ça. Elles sont belles, ces questions. Ce n'est pas des questions auxquelles on peut répondre facilement. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que toute expérience existe parce qu'il y a l'attention. Parce qu'il y a notre présence, parce qu'il y a une perception de l'expérience. Il n'y a pas une expérience qui existe en dehors de la perception d'expérience. C'est-à-dire, dans notre méditation, à partir du moment, si je dis ça, en fait, c'est juste pour une simple raison, et ça, c'est plus facile à comprendre. Dans notre méditation, à partir du moment où on entend un oiseau, ça veut dire qu'on est conscient. Ça veut dire qu'il y a une présence. La présence est là. Sinon, on n'entend pas l'oiseau. À partir du moment où on sent le mouvement de la respiration, ça veut dire qu'elle est là, cette présence. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette présence. C'est pas tellement l'oiseau. C'est pas tellement la respiration. Dans le thème de cette journée de retraite, parce que sinon, ça peut être la respiration qui nous intéresse. Mais ici, en fait, la respiration, elle est juste un support pour faire émerger cette sensation d'être présent. Et c'est cette sensation de présent qui est l'objet de notre curiosité. C'est pas la respiration qui est l'objet de notre curiosité. C'est la conscience. C'est la conscience de la respiration. C'est comme si on essayait, plutôt que de voir les couleurs, c'est de voir la lumière qui donne la vie aux couleurs. On fait jamais ça. Ou c'est comme si on essayait, au lieu de regarder les formes d'un arbre, c'est de regarder l'espace que l'arbre découpe. D'être conscient de l'espace à l'intérieur et à l'extérieur de l'arbre, c'est très difficile. Parce qu'on parle de complètement autre chose. On parle la conscience ou l'attention, mélangeons les deux pour le moment, la conscience ou l'attention, c'est ce qui connaît chaque chose. C'est ce qui nous permet d'être le témoin de chaque expérience. Une émotion n'a d'existence qu'au moment où elle est perçue. Une douleur n'a d'existence qu'au moment où elle est perçue. Un son n'a d'existence pour nous. Hein, c'est une approche phénoménologique qu'on a dans la psychologie. Pour nous, une chose n'existe que quand elle est perçue. Si elle n'est pas perçue, elle n'existe pas. Dans notre expérience de la vie, dans la totalité de notre expérience de la vie, tout ce qui existe dans notre expérience, c'est parce que c'est perçu. Donc, dans toute expérience, il y a toujours deux faces, l'objet et le sujet. L'objet, c'est tout ce qui est perçu, et le sujet, c'est ce qui perçoit, l'attention, la conscience. Donc, là où je veux en venir par rapport à la méditation, c'est qu'on médite en s'intriguant de la présence de cette attention, de la présence de cette conscience, plus qu'en recherchant la paix de l'esprit, le contact avec la respiration, ou connaître la respiration, ou connaître son corps au niveau vibratoire. On ne cherche aucune expérience comme ça. Ce qu'on cherche, c'est remarquer cette attention, la présence de cette attention qui est notre essence. Là, je fais un raccourci. Allons-y doucement. Quelle est la relation entre cette attention et la sensation d'exister? Il faut énormément de compréhensions différentes pour ce que je suis en train d'essayer de pointer du doigt et du sens. C'est difficile en 1 heure ou en 2 heures ou de parler de ce thème-là si d'autres compréhensions n'ont pas été. Ne se mettent pas en lien avec ça. Une des compréhensions qui est nécessaire, et qui vient de la pratique de la méditation, c'est de remarquer que quand on s'installe en méditation, il n'y a pas qu'en méditation, mais en méditation, vu qu'on a une intention d'observer notre expérience, j'espère, en tout cas dans mon style, on a une intention d'observer notre expérience, on devient connaisseur peu à peu de nos atmosphères, nos différents niveaux de conscience et de notre expérience. Et on peut remarquer que quand on s'installe en méditation et que l'esprit s'apaise, qu'il y a moins de tumulte et d'agitation, notre attention est donc moins prise dans le tumulte et l'agitation. Dès que notre attention n'est plus prise dans le tumulte de nos pensées, mettons par exemple, on sent bien tout l'inspire et on sent bien tout l'expire. Et on sent tout l'inspire et on sent tout l'expire. On entend les oiseaux et on sait qu'on entend les oiseaux. Il n'y a pas trop de pensées à propos de la respiration, des oiseaux ou d'autres choses. Il y a simplement la perception de ça. À ce moment-là, dans l'expérience, il y a la sensation d'être présent. Et cette sensation, c'est une sensation qui nous apparaît comme étant « je suis présent ». On se sent proche de soi. On se sent à un endroit authentique de soi-même. On sent que cette expérience ce moment, il y a quelque chose de vrai, de complet, de profond, d'intime, de juste. Et c'est quoi qui est vrai, complet, profond, intime et juste? C'est la présence de cette conscience. C'est pas l'oiseau, c'est pas la respiration, c'est pas. C'est simplement dans cet état de non-distraction. Quand l'attention n'est pas prise dans tout un tas de choses, dans cet état de non-distraction, il y a une justesse qui est, on est présent et on se sent présent. On se sent en contact avec nous-mêmes. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'attention qui est là et qui entend les oiseaux et qui sent la respiration et qui sent la douleur et qui voit émerger une pensée, disparaître une pensée. Elle est là, elle semble complètement stable et les choses bougent dedans, émergent, vont et viennent. Et il y a une sensation d'authenticité et il y a une sensation de ça, c'est vraiment moi. C'est moi quand je ne suis pas distrait, agité. C'est cette sensation de je suis vraiment moi. Et c'est là que c'est de cette expérience et de cette sensation que ça me permet de dire que cette qualité d'attention me mène au cœur de moi-même. C'est-à-dire que quand je dis je, dans ce moment-là, je parle de cette attention. Je ne parle pas de mon métier, je ne parle pas de mon identité fonctionnelle, j'ai envie de dire, parce qu'elle n'est plus là, elle n'est plus construite, elle n'est plus présente dans le moment de l'expérience. Il n'y a plus ce Denis que je décline en tant que papa quand je suis dans ma famille, en tant qu'enseignant quand je suis dans mon métier, en tant que ceci. Ça disparaît. Il reste une qualité de présence. Souvent, c'est ce que je comprends par juste être. Ça m'a toujours énervé, ce juste être. Il suffit de juste être. Ça m'a toujours énervé, ça. Mais je comprends quelque chose, là. Juste être, c'est ne pas être ceci et ne pas être cela. Ne même plus être. En fait, dans ce moment-là, tout ce qui est après je suis, ça c'est Nisargadatta Maharaj, tout ce qui est après je suis est une identification erronée. Je suis ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela. Erroné ne serait peut-être pas le bon terme. Temporaire. Temporaire. Je suis maçon, c'est temporaire. Si je change de métier, ben je suis autre chose. Voilà. C'était une identité temporaire. Je suis Denis, si je m'appelais Pierre, ben, ça change rien à mon identité profonde. C'est des identités temporaires. C'est un peu comme des étiquettes fonctionnelles qui permettent de fonctionner ensemble. Et qui expriment une réalité. Mais une réalité du quotidien, on va dire. Mais dans les moments où vraiment l'esprit se pose et ne rappelle plus cette identité fonctionnelle, il y a une sensation d'être présent, sans être ceci ou cela. Cette identité, souvent, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'être ceci ou cela pour être dans les bois et voir la beauté, par exemple. On n'a pas besoin d'être quelqu'un. On peut juste être là et on ressent. Et dans cette présence, en fait, émergent des arbres, des oiseaux, des ruisseaux, des feuilles qui tombent. Et il n'y a pas besoin d'être Denis avec toute une identité pour voir les feuilles qui tombent et voir les arbres. Et quand les deux se mélangent, en fait, on voit rien du tout. Donc la question qu'on discute ici, la question de la conscience, est aussi une question d'identité. C'est pour ça que connais-toi toi-même. C'est une question d'identité. Hein, la question fondamentale, en fait, pour sortir de l'illusion, pour acquérir une forme de connaissance qui n'est pas une connaissance intellectuelle, un contact direct avec la réalité telle qu'elle est, eh bien, c'est une question d'identité. C'est qui suis-je? Hein, de nouveau, dans l'hindouisme, elle est très présente, cette question, qui suis-je? Qui pense, qui ressent, qui perçoit. De manière à réaliser que l'image qu'on a de nous-mêmes n'est qu'une image qu'on a de nous-mêmes. Elle est nécessaire. Il faut la pétasser là où elle ne fonctionne pas bien, parce qu'il y a des bugs en fait dans cette image. Ça, c'est le développement personnel. Il faut travailler à cette image pour qu'elle fonctionne mieux. Parce qu'elle elle a sa place et sa fonction dans notre monde, dans le monde dans lequel on vit. Mais la question « qui suis-je ?» nous mène à des profondeurs de l'image qui nous fait réaliser qu'en dehors de cette image, on existe aussi. On a une forme d'existence, qu'on pourrait appeler la vie elle-même peut-être. Et cette forme d'existence, nous on est complètement identifiés d'habitude à notre identité superficielle, j'ai envie de dire, ce qu'on fait, où on est né, notre histoire, notre passé, notre vécu, notre société. On est complètement identifié à ça comme si c'était la totalité de nous-mêmes. Et pour moi, c'est ça l'ignorance. C'est de croire que ça, c'est la totalité de ce qu'on est. Mais quand, dans un moment de méditation, ou dans n'importe quel moment, on réalise qu'en fait, il y a cette sensation de présence qui vient de l'attention ou de la conscience, mélangeons les deux mots de nouveau, à ce moment-là, on a l'impression de toucher à quelque chose qui n'est pas dépendant de cette image. C'est-à-dire que si ma vie va bien ou si ma vie va mal, ou si j'ai réussi professionnellement ou si j'ai raté professionnellement, ou quoi que ce soit, n'a rien à voir avec cette réalité de moi-même. Et c'est un endroit où, quand il est connu intimement, on peut toujours revenir. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on changeait de plan ou de perspective et qu'à un moment, on se connaît comme étant nos fonctions et notre personnalité et notre identité fonctionnelle. Et puis, à un autre moment, on se permet de ne plus s'identifier à cette identité fonctionnelle et de s'identifier à quelque chose d'essentiel, à quelque chose de primordial en nous, qui était déjà là quand on était petit, quand cette identité n'était pas encore construite, et qui est toujours là maintenant. La même chose. Non affectée par tous ces changements qu'on a vécus. C'est fascinant. C'est fascinant, c'est étonnant qu'on puisse vivre sans s'interroger, sans réaliser. C'est énorme, en fait. C'est comme... c'est énorme, en fait, parce que c'est très difficile de réaliser la présence de quelque chose qui ne disparaît jamais. C'est comme si un poisson des profondeurs devait en demander c'est quoi l'eau. Il n'a jamais rien vu d'autre que de l'eau. Comment est-ce qu'il pourrait savoir ce que c'est l'eau? C'est comme si nous, on voyait tout le temps de la lumière. Même si on ferme les yeux, il y aurait tout le temps de la lumière. Il n'y aurait pas de jour, il n'y aurait pas de nuit, il y aurait tout le temps que de la lumière. On ne saurait pas ce que c'est la lumière. On sait ce que c'est la lumière parce que de temps en temps, elle n'est pas là. Mais s'il y a quelque chose dans notre expérience, s'il y a quelque chose de nous qui ne disparaît jamais, alors on ne peut pas le connaître. C'est étonnant. Mais du coup, c'est... dit Sergei Datamaraj, de nouveau, quand il parle de l'attention, l'attention parfois qui s'écrit avec un grand A, vous voyez, qui est proche de ce qui, pour ceux qui seraient plus croyants, qui seraient proches de Dieu, l'attention, et la plus grosse partie de toute expérience, solide comme un rocher, tout le temps présente. On ne la voit pas. On n'est pas conscient de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là, elle est là tout le temps, mais on a du mal à la repérer et à la rendre consciente. Donc pour moi, dans la pratique de la méditation, il y a vraiment deux axes. Je vous parle de ma pratique, parce que dans la méditation, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup d'autres manières et d'intérêt et d'approche à la méditation que la mienne. Mais pour moi, il y a deux axes qui sont fondamentaux. Il y en a un, c'est, comme je viens de parler, c'est la conscience de l'attention, la conscience de qui je suis vraiment, de comment ça s'exprime dans le moment, la conscience de l'attention, l'attention qui se connaît elle-même, tout ça c'est ce dont je viens de parler, ça c'est un axe. Et l'autre axe, c'est la pratique de la compassion, qui est encore autre chose. Et pourtant, il y a des liens que je ne vais pas essayer de faire aujourd'hui parce qu'on ne peut pas tout faire dans la journée, mais en fait, les liens sont... L'un ne peut pas aller sans l'autre, en fait. Toutes les restes, pour moi, sont des pratiques secondaires. Tout le reste, c'est des pratiques secondaires. C'est les deux seules qui sont des pratiques primaires, à mon sens, là où j'en suis maintenant. Les deux pratiques primordiales dans mon approche de la méditation, c'est une curiosité soutenue pour quelle est la nature de notre essence, ou dans le bouddhisme, la nature de l'esprit. Quelle est la. Dans mon expérience et dans ce que je peux en comprendre, et la philosophie a sa place aussi, comment est-ce que je peux peu à peu me rendre conscient de mon essence? Ça, c'est un axe. Et le deuxième, c'est développer la compassion, qui n'est pas du tout le thème de cette journée, mais qui est quand même important pour avoir une vision globale, en fait, de ce qui me semble important. C'est important de le mentionner. On va faire une pause, on a une dizaine de minutes. Et puis après ça, je vais guider une méditation où on va essayer de naviguer dans ces chemins-là, essayer d'être conscient de la conscience, conscient de l'attention, conscient de notre propre présence, jouer avec. Il y a vraiment une grande dimension pour moi aussi qui est très importante, qui est la dimension du jeu. Où en fait, c'est à la fois hyper sérieux et à la fois, il ne faut pas une attitude figé ou dur ou avec beaucoup d'injonctions. On joue avec la méditation. On joue avec la méditation. On ne sait pas comment ça va se passer. On est dans un monde complètement inconnu. On est complètement ignorant. Il y a cette attention qui est là. Elle s'en va dans les pensées. On la prend, on la remet là et on voit ce qui se passe. Ça tient pas, ça repart par là. Mais c'est pas grave. On peut sourire et se dire, ah, je me suis encore fait avoir. Hop, on la ramène sur la respiration ou sur le chant des oiseaux. Et puis quand on se sent présent, on essaye de sentir cette présence et d'être conscient de cette présence. C'est ça qui nous intéresse. Les oiseaux, c'est magnifique. Et de temps en temps, on reste vraiment avec le chant des oiseaux. On reste avec le chant des oiseaux. Mais on sait qu'il y a cette présence qui est là et qui est en train d'écouter le chant des oiseaux. On essaye d'enlever du jeu. On essaye d'enlever du jeu. On essaye de juste avoir une attention qui entend l'oiseau. Plutôt que je suis en train de méditer et j'entends l'oiseau. On essaie d'enlever du jeu peu à peu. Mais parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, ça part par là, ça revient par là. Et on joue, on s'intrigue.
Ce discours a été mis à votre disposition par l'association Dharma Nature. Pour soutenir l'association et Denis Roberex, l'enseignant, rendez-vous sur www.dharmanature.org/donation. www.dharmanature.org/donation.